Eh bien, Livre Évasion continue. On va être avec Claude Quincès, alors qui est un ancien grand patron du 36 Quai des Orfèvres. On présente plus le Quai des Orfèvres, il y a eu des films, il y a eu beaucoup de choses. Vous avez fait toute autre carrière là, vous ?
Oui.
Toute autre carrière ?
Oui.
Alors quand on est comme ça, qu'on part à la retraite, on a envie d'écrire ce qu'on a vécu ?
Pas du tout.
Ah bon, d'accord.
Pas du tout. Ah bon. Je vous explique.
Oui.
Depuis que je suis à la retraite, je me livre à deux activités qui me passionnent, la musique et plus particulièrement le saxophone. Je joue dans des bandas gersoises.
Ah d'accord.
Et puis j'adore la randonnée, vous voyez, on est aussi ici au départ du
Saint-Jacques,
du chemin de la Compostelle. Mais il se trouve que j'ai un fils qui, quelque temps après son mariage, m'a dit un jour en tête à tête en me regardant dans les yeux, « Papa, ça me ferait tellement plaisir si tu écrivais ton vécu. » Et je lui ai dit, « Mon fils, tu sais très bien que je n'ai pas l'intention d'écrire. » J'étais comme tous les vieux flics à la retraite, périodiquement sollicité par les journalistes pour écrire mes mémoires. Je disais toujours non. Je pensais, à tort ou à raison, que tout avait été écrit, dit ou filmé sur le Quai des Orfèvres. Je disais toujours non. Mais là, mon fils a insisté. Et ben j'ai dit, écoute, prochain coup de fil que j'aurai, je dirai oui. Il y a deux mots qui reviennent souvent dans mes livres, parce que j'en ai fait plusieurs, bien sûr, maintenant. Le hasard et la chance, c'est le hasard. Trois jours après, je reçois un coup de fil d'un collègue à Paris qui me dit, je suis chez un éditeur, Jacob Duvernet, il cherche un flic pour écrire l'histoire du 36, Quai des Orfèvres. Tu es un de ceux qui a vécu le plus longtemps, 35 ans, t'es tout à fait désigné. Voilà comment je suis parti. Mais je dois reconnaître que je voue une reconnaissance formidable à mon fils, parce que je vis une seconde aventure merveilleuse depuis la sortie de mon premier livre 2010, l'histoire du 36. Je parcours la France dans les salons, je fais faire des conférences dans des endroits divers et variés, les bibliothèques, les médiathèques, les clubs, les associations, les Rotary Clubs et les lycées et collèges où je passe de merveilleux moments. La semaine dernière, j'étais au Salon du Livre de Limoges, mais le vendredi après-midi, j'étais comme toutes les années depuis la sortie de mon premier livre au lycée des Saint-Jean.
Alors, bon, alors la question que je me pose dans ma tête, c'est est-ce qu'on peut tout dire ? Quand on a connu beaucoup d'affaires, c'est des affaires qui sont classées, on peut tout dire, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire au public quand on a été comme ça.
Je crois que, très sincèrement, je n'ai pas caché grand-chose dans mes livres, pas plus dans l'histoire du 36 que dans les Seigneurs de la Crime et dans la Brigade Mondaine, où je raconte mes premiers pas au Quai des Orfèvres, mes 9 ans d'inspecteur à la Brigade Mondaine. Bon, disons que si j'ai caché quelques petites anecdotes, c'est par souci de, par pudeur ou de, mais rien de bien important. Vous savez, quand j'étais directeur PJ, j'avais sous mes ordres le service brigade financière qui avait en charge les affaires un peu spéciales, les affaires de la mairie de Paris, Chirac, etc. Et vous verrez, je raconte un petit peu ce qu'a été cette aventure lorsque j'étais à ce poste-là, et je n'ai pas subi de pression, contrairement à ce que certains pensent. Et si j'ai eu parfois une ou deux directives un peu poussées, ben je m'y suis opposé. Je cite notamment dans mon livre le jour où Pasqua, ministre intérieur, voulait voir un procès-verbal. Et moi, je n'avais pas vu le procès-verbal. En tant que directeur PJ, je n'ai pas à lire les procès-verbaux. J'ai dit au préfet de police, dites-lui que je lui ai dit l'essentiel, ce qui était tout à fait normal dans les affaires importantes. Le ministre de la Justice, qui n'est pas officier de police judiciaire, pas plus que le ministre de l'Intérieur, est au courant par le biais du parquet. C'était normal qu'au ministre de l'Intérieur. Donc, je lui avais rendu compte verbalement du procès-verbal, l'audition du procès-verbal de personnalité. Et Pasqua, très bien compris, il a dit, il a raison, le directeur de police judiciaire. Voilà.
Et vous avez approché, bien sûr, de très près le grand banditisme, là.
Oui.
Oui, ça change ou c'est toujours pareil, je veux dire,
non, il y a une évolution.
Les années passant, oui.
Ah, il y a une évolution depuis l'époque, les années 70-80, ouais. Où le milieu était structuré. Il y avait, si j'ose dire, une école du crime. Le beau mec, le beau voyou, comme on les appelait, oui. Il débutait par les petits vols roulottes et les petits casses, puis après il montait au braquage, et puis les gros braquages. ils se faisaient des noms, c'était des personnalités, puis il y avait des clans qui se formaient, et de temps en temps, il y avait quelques règlements de compte. Maintenant, les petits voyous passent du petit trafic de drogue au braquage. Vous savez, il y a 2-3 ans, je crois, à Marseille, il y a une équipe qui est montée sur un braquage de jeunes de 18-19 ans, et avec une Kalachnikov, un des deux voyous a tué son copain parce qu'il ne savait pas se servir de la Kalachnikov.
D'accord.
Les beaux voyous, à mon époque, ils s'entraînaient au tir.
Voilà. Oui,
et puis, il y avait des relations flics pour voyous qui n'existent plus maintenant.
Il y a peut-être un certain respect, on peut le dire.
Oui, c'est un bien grand mot.
Mais non, c'est peut-être pas tout à fait le mot adéquat. Oui,
voilà. Le voyou qui était à quelques exceptions près, je pense à Mezrine, je pense à d'autres, mais tirez pas sur les flics.
Voilà.
D'abord, il y avait la peine de mort.
Oui, ça coûtait très cher.
Et ça coûtait très cher. Et maintenant, les petits jeunes, bon, la vie d'un flic, ça compte pas. Bon, pas plus que d'un flic ou d'une autre personne,
oui, c'est vrai,
d'un pompier ou d'un...
Alors vous qui avez été justement, vous parlez de la peine de mort qui a été abolie, alors certains disent que c'est une mauvaise chose, d'autres disent que c'est une bonne chose. Vous, votre avis là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez?
Je veux vous dire, quand j'entends à l'heure actuelle ceux qui disent pour lutter contre le terrorisme, il faut rétablir la peine de mort, c'est une connerie monumentale.
Moi, j'ai l'impression.
Les terroristes.
Ils s'en foutent, de toute façon.
La peine de mort, ils la veulent.
Oui.
C'est la peine de vie qu'il faut rétablir.
Oui, oui, oui.
Il faut les foutre au bagne,
oui.
jusqu'à perpète. C'est
ouais,
ça.
Ouais.
De la même manière que la déchéance de nationalité qui a...
Ouais.
On a sodomisé les coléoptères pendant des mois pour les voyous, comme les terroristes.
Oui.
Oui, ou ils n'ont pas de papier, ou ils ont des faux papiers, ils n'en ont rien à foutre qu'on leur enlève la nationalité française. Hein.
Voilà. Et alors là, oui, justement, ben, on en parle, le terrorisme, on est en plein dedans, là, et on voit que, quand même, c'est vrai que la police a été un petit peu interpellée, parce qu'on trouve que ça va pas assez vite, mais on se rend compte que c'est très compliqué, et que finalement, on arrive à arrêter les gens, quand même, parce qu'il y a un réseau qui marche bien.
Très bien, vous avez tout à fait raison. On se rend compte que malgré les dysfonctionnements que ne va pas manquer de souligner la commission parlementaire qui a enquête là-dessus et qui va rendre son rapport au mois de mai, malgré ces dysfonctionnements, alors au niveau des liaisons internes et externes, on dit avec la Belgique, ça n'a pas toujours bien marché, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits dysfonctionnements, mais globalement, le résultat est là et ces équipes, il y en a d'autres certainement, mais les équipes qui ont fait les attentats de Paris et de Belgique, apparemment, sont tous sont morts ou
oui,
sont sous les verrous. Hein.
Et donc, oui, alors justement, puisqu'on est dans le terrorisme, on ne peut pas y passer à côté. Enfin, nous, on est dans des régions, on ne le verra sûrement pas, je ne pense pas.
Je vous le souhaite.
Oui, on le souhaite.
Oui, vous savez, le terroriste, qui cherche avant tout, c'est la caisse de résonance.
Voilà, c'est ça.
Et c'est sûr qu'une bombe a pu envoler,
oui.
Ça aura moins d'effet que la même bombe à Paris. Hein,
et là, alors... On pense que ça va pouvoir s'éradiquer ou c'est très très compliqué?
Écoutez,
Parce que c'est un peu des actions, on a l'impression que parfois c'est des actions individuelles. Hein, on a beau dire qu'il y a Al-Qaïda ou je ne sais pas qui derrière, mais parfois, puisqu'on a vu qu'il y en a un qui a reculé, qu'à un moment il doit réfléchir.
Oui.
Il n'a pas voulu se faire sauter.
Il peut y avoir des initiatives individuelles,
ouais.
Mais on se rend bien compte que maintenant les équipes sont assez structurées.
Ouais.
Je vais vous livrer mon sentiment personnel.
Voilà, c'est ce qui nous intéresse.
L'idéologie... radicalisme musulman, etc., existe depuis la nuit des temps et on n'arrivera pas. Il y aura toujours ce fond de se creuser, si vous voulez, où ils recruteront des terroristes. Mais j'ai bon espoir, et on le voit en ce moment, que si toutes nos grandes puissances, les États-Unis, la Russie, l'Europe, s'unissent pour leur donner... des coups de pied dans les fesses là-bas au Moyen-Orient.
Ouais.
Si on tombe les têtes, vous savez, les têtes pensantes de ces mouvements-là, ils ne vont pas se faire tuer. Hein. C'est les petits jeunes qui sortent des banlieues, pour la plupart jeunes trafiquants, pas tous, parce que hélas, il y a des jeunes qui sont issus de milieux sociaux normaux, si je puis dire, et qui partent aussi au Daesh. Donc si on leur donne là-bas, et en ce moment, c'est bien parti. Et si en France, de notre côté, on revoit un petit peu nos problèmes d'éducation, parce que tout est là, hein.
Oui, bah oui.
Tout, on s'en rend compte. On n'a jamais mis l'accent, comme ces derniers mois, sur le problème d'éducation. Tout est dans les problèmes d'éducation.
Oui, puis on voit que... Alors, j'ai vu une émission l'autre fois, où je crois que c'est un journaliste ou quelqu'un de la police qui disait qu'on en a pour 20 ans, quand même.
Ah, il est... mon sentiment, c'est qu'effectivement, les attentats ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain.
D'accord.
Mais je pense, j'espère, vous savez, je fais partie de ceux qui ont le verre à moitié plein. Et alors j'espère pour les jeunes, nous, mais je suis grand-père, comme vous vous en doutez, pour mes petites filles, que leur avenir sera moins sombre que ce qu'on peut le penser à l'heure actuelle.
Alors c'est marrant parce que vous me disiez que vous étiez amateur de musique, de saxophone, et là on a commandant de gendarmerie, je crois qu'il était commandant pour le Mabrier, qui était chef de la Haute-Loire et qui lui était dans la peinture. Alors dans la police, il y a quand même des artistes. On peut le dire.
Ouais, ouais, ouais.
Puis c'est peut-être un dérivatif, parce que je pense que des moments il fallait se sortir la tête.
Vous savez, j'ai dans la police, c'est un petit peu comme au rugby, on a besoin, lorsqu'on a travaillé dur pendant des mois, de la troisième mi-temps et de s'éclater. Alors, les choses ont évolué là aussi. Nos jeunes flics ne peuvent plus faire ce qu'on a fait nous à notre époque. Hein. Quand j'ai quitté l'anti-gang à 3h du matin dans le 12e arrondissement, à la sortie du restaurant, mes collaborateurs avaient fêté mon départ, mais ce qu'ils ne m'avaient pas dit, c'est qu'ils se sont arrangés pour que je sorte le dernier. Je l'explique dans mon premier livre. Je sorte le dernier du restaurant et j'avais 35 flics, pétards en l'air, qui ont tiré 35 coups de feu en plein Paris. Et je me suis dit, tu vas être révoqué. Non, je n'ai pas été révoqué parce qu'ils avaient pris la précaution de prévenir la police secours qu'ils allaient recevoir des coups de feu. Dites aux riverains qui vont appeler qu'en fait, le départ du patron, ils ont tiré des pétards de feu d'artifice.
Oui.
Donc, lorsque les gens se sont mis aux fenêtres, ils ont vu 35 gars, mais les flingues étaient rangées et je n'ai pas été révoqué. Mais mon collègue de l'anti-gang quitterait l'anti-gang en ce moment et une affaire pareille, le préfet de police saute. C'est sûr. Voilà, ça évolue.
Mais écoutez, merci. On voit que vous avez une longue carrière, plein de choses qui ont dû se passer, très vivante aussi. Bon, c'est vrai que nous, on est loin de tout ça, du grand banditisme, mais vous avez dû apprendre beaucoup de choses, et sur l'humain, parce que il y a des gens sûrement très bien qui un jour ont basculé. Pourquoi ?
Vous savez, Guillaume, l'un de ceux commissaires qui a inspiré Simonon pour créer le personnage de Maigret, dit dans ses mémoires, nous sommes tous fils de Caïn, l'honnête homme d'aujourd'hui, peut-être le criminel de demain.
Ça sera notre conclusion. Merci.